chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission de Lumière de l'Espérance, l'émission du dimanche, de Radio Courtoisie. Nous ne sommes pas en direct, que voulez-vous, c'est le mois d'août et... mais non, nous ne sommes pas en vacances, mais nous avons d'autres occupations qui sont assez, qui reviennent tous les ans et qui nous éloignent de la région parisienne et donc du studio de Radio Courtoisie. Néanmoins, nous avons fait un effort puisque je retrouve Jeanne Smith, que j'avais perdu les deux précédentes fois parce qu'elle avait elle aussi ses occupations. Bonjour Jeanne.
Bonjour Olivier. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie.
Et nous recevons un nouveau venu à Radio Courtoisie. C'est la première fois, je crois, qu'il parle à ce micro. Et donc, la première fois que vous allez l'entendre, à moins que vous ne l'ayez entendu par ailleurs. Donc, nous recevons Gérald Valette, qui est, pour sa casquette, en tout cas d'éditeur, puisqu'il a plusieurs casquettes, comme un certain nombre de gens. Il faut parfois multiplier les entreprises pour arriver à faire quelque chose dans la vie. Et donc, il a une casquette d'éditeur, une maison d'édition qui s'appelle Les Trois Cœurs. Gérald Valette, bonjour. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette maison d'édition ?
Oui, bonjour. Merci d'avoir l'amabilité de me recevoir et de donner la parole. C'est une maison d'édition qui est portée par la Sainte Famille. Les Trois Cœurs, c'est le cœur de Marie, le cœur de Jésus et le cœur très chaste de Saint Joseph. Voilà. Donc, c'est un projet éditorial qui a uniquement pour vocation de permettre aux lecteurs de connaître des auteurs qui, dans un monde de plus en plus compliqué que celui de l'édition en France, de pouvoir accéder à des titres qui soient qualitatifs et avec une ligne éditoriale concernant notre maison qui ne soit pas dévoyée, qui reste la ligne éditoriale qui est la nôtre, c'est-à-dire catholique. Et qui permet aussi de faire connaître des auteurs, soit étrangers, ou hors des sujets qui aujourd'hui ne sont pas bankable, comme on dit, dans le monde de l'édition, qui est devenu un monde de plus en plus complexe.
Alors, je vais me permettre d'intervenir immédiatement. Sachez que Radio Courtoisie, c'est la radio libre de la francophonie. Et que pendant très longtemps, ici, dans le studio où nous enregistrons, il n'y est pas, nous avons été taxés d'un franc à l'époque, puis d'un euro pour tous les anglicismes. On met ça dans un petit cochon rose et à la fin, je n'ai jamais su ce qu'ils font de l'argent, soyons honnêtes.
Mais, parce que le cochon fait de l'argent, d'ailleurs, parce que D'ailleurs, je ne sais pas, je crois que le cochon a disparu du nouveau studio.
Non, il est à côté. Il a même un petit. Et blague à part, on comprend très bien ce que vous voulez dire et c'est ça le plus important. Et je voudrais savoir, cette maison édition, je pense qu'elle est assez récente. Vous l'avez, quand l'avez-vous fondée ?
Alors, il y a un peu plus de 3 ans. Sur une idée et sur une envie. Je travaillais à l'époque dans une ancienne maison d'édition qui n'est plus aujourd'hui. J'avais fait le tour de la question et j'avais surtout trouvé les failles de notre système éditorial en France et j'étais assez frustré de ces compromis que font toutes les maisons d'édition. Bon, à part certaines quand même, mais quelle que soit d'ailleurs leur ligne éditoriale, mais compromis nécessaires pour pouvoir subsister, pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir avancer. Donc avec mon épouse, on se posait la question depuis un petit moment de créer un label éditorial et on le voulait indépendant et donc on le voulait non lucratif parce que c'est la seule manière de rester indépendant, en tout cas pour nous.
Donc il fonctionne comme votre maison fonctionne comme une association.
Alors quasiment. C'est un label. L'ensemble des, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de charges particulières, les charges sont payées au minima et tout bénéfice qui peut être fait sur un titre est réintégré tout de suite pour soit republier, soit réimprimer, soit aller chercher d'autres auteurs qui n'ont pas les moyens de trouver un éditeur.
Et pourquoi ce choix des trois noms, des trois cœurs, pardon, dans le nom ?
Eh bien, parce que la famille nous semble être un combat essentiel aujourd'hui au cœur de nos vies. qu'une famille sans un modèle est en danger, et le seul modèle fiable pour nous, c'est la Sainte Famille. Donc les trois cœurs nous semblaient une évidence, parce que le cœur de Joseph, le cœur très chaste de Joseph, est une institution qui doit être mise en avant pour compléter justement cette famille. Joseph est un pilier essentiel pour le père de famille, pour les enfants. Et donc voilà, on était parti là-dessus, et il se trouve qu'on a trouvé quelques mois plus tard, on a été invité à participer, j'y suis allé dans l'Oklahoma, aux États-Unis, à un pèlerinage aux trois cœurs qui existait depuis longtemps, qui est une sorte de répétition du pèlerinage de Chartres, mais aux États-Unis. En tout cas, il s'en inspire beaucoup, qui se termine dans l'abbaye bénédictine de Clear Creek, aux États-Unis. Pardon, c'est pas l'anglicisme, c'est juste
l'anglais. Non, ça passe.
et donc voilà, donc il y avait une sorte de résonance, il y avait comme ça une sorte d'idée générale qu'on était dans la bonne voie. Et tout a commencé avec une discussion sur un article, sur un ouvrage, l'ouvrage de Sir Clark Crockett, qui gagne à être connu, qui devient de plus en plus connu en Europe. C'est une jeune Irlandaise qui a eu une conversion fulgurante. Enfin, faut suivre l'ensemble de son histoire, c'est extraordinaire. Qui est morte très jeune, qui s'est engagée, qui est devenue sœur à la Maison de la Mère. C'est une congrégation en Espagne. Qui est morte dans un tremblement de terre à 33 ans. Et la congrégation a reçu un nombre incalculable de témoignages de jeunes, surtout, qui ont été convertis ou touchés profondément par sœur Clark Crockett.
De manière directe ou par la prière?
Non, de manière directe. Elle avait un rayonnement extrêmement puissant, je pense, en tout cas. Et donc, face à tout ça, ils ont décidé d'écrire sa vie dans un livre qui s'appelle « Seul avec Christ seul » de sœur Clark Crockett. Et ce sont les sœurs de la Consolation qui nous en ont parlé, et qui nous ont dit que ce livre était fantastique. C'est un livre qui était édité en espagnol et en anglais seulement. Donc, mon épouse Alma se l'est procuré, l'a lu, et effectivement, elle m'a dit c'est un ouvrage extraordinaire. Il faut à tout prix qu'on puisse que ce soit notre premier ouvrage pour notre label. Donc, on a contacté les sœurs en Espagne, et c'était très drôle parce qu'elle me disait, écoutez, c'est incroyable, on sort d'une réunion où on s'est dit, il faut à tout prix maintenant qu'on trouve un éditeur français. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis, on a sorti le livre, d'abord à 300 exemplaires. Hein, c'est toujours des petits tirages au départ. Et puis là, on réimprime parce que la demande est de plus en plus forte. La cause est engagée à Rome. Et je pense que ça va être une des prochaines grandes figures, en tout cas auprès des jeunes, comme l'a été Carlo Acutis, par exemple.
Pardon de monopoliser les questions, mais je suis curieuse de savoir comment vous faites pour être diffusé en France. Parce que pour beaucoup d'éditeurs, c'est le problème, c'est la diffusion. Est-ce que cet ouvrage a été bien reçu dans les librairies, chez les diffuseurs? Comment ça s'est passé?
Oui, alors c'est un combat, la diffusion en France, si on veut rester justement indépendant. Donc on est diffusé, en fait... simplement parce qu'on est présent dans le catalogue qui permet à l'ensemble des libraires de se procurer un titre en le commandant sur leur système. On n'est pas distribué, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à un distributeur qui va prêcher pour nous dans les différentes librairies. Donc on fait appel à notre réseau qui grandit de jour en jour, de plus en plus, et j'espère encore suite à cette émission, parce que finalement, c'est la clé. À une époque, les réseaux, c'était les libraires.
Oui.
C'était les libraires qui connaissaient très bien leurs titres et qui étaient capables de répondre à n'importe quelle question d'une personne qui rentrait dans la librairie et qui voulait trouver un livre par rapport à un sujet, un cadeau ou une personne. C'est de moins en moins le cas, et je ne jette pas la pierre aux libraires, loin de là. Mais simplement, on a une effusion de titres qui est terrible. On est passé à plus de 40 000 titres par an. Tout le monde veut écrire, tout le monde écrit. Et comme les diffuseurs, Amazon, l'ensemble des grandes entreprises qui œuvrent dans ce métier du livre, cherchent à proposer le maximum de titres, il y a une sorte de dilution qualitative et forcément une dilution de la connaissance des titres. Donc il y a de moins en moins de titres en rayon, en tout cas s'il y en a on en trouve un seul exemplaire ou deux, parce que la place manque forcément par rapport au nombre de titres. Donc tout ça, ça a une conséquence sur l'élément qualitatif du livre. Donc les réseaux sont la clé. Et donc on a remplacé les réseaux d'antan avec nos réseaux actuels, bien entendu, on s'adapte. Chaque livre augmentant un peu plus le nombre de personnes qui s'adressent à nous.
Et quand vous dites réseau, vous voulez parler des réseaux sociaux ou
entre
d'autres
autres,
choses?
Pas que. On a les réseaux des lecteurs qui tout simplement nous passent commande ou se font connaître auprès de nous. Donc on les informe régulièrement avec des lettres d'information. On a des réseaux qui sont constitués, on va en parler tout à l'heure, sur un titre très important où on a fait appel à une souscription pour permettre son financement. Et ça nous a apporté d'un seul coup une très grande base de donateurs, de lecteurs, de commandes, et qui nous permettent après de continuer à chaque sortie d'un nouveau titre à les solliciter, non pas pour une donation, mais là pour qu'ils en prennent connaissance, qu'ils l'achètent s'ils le souhaitent.
Et je reviens aux chiffres que vous donniez, 40 000 titres par an. Je ne sais pas, chers amis auditeurs, si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Ça fait plus d'une centaine de livres par jour. Je ne sais pas de quoi est constituée votre bibliothèque personnelle. Je ne sais pas combien vous avez de livres, mais il me semble qu'il est quasiment impossible d'avoir 40 000 titres chez soi. On peut en avoir beaucoup. Alors, pour fréquenter quelques rédactions, je peux vous dire que les services de presse, parce que les journalistes continuent de recevoir des livres, deviennent quelque chose de problématique parce qu'on les entasse dans les salles de rédaction parce que, et on ne peut pas tous les honorer parce que c'est devenu impossible. Moi, il me souvient d'une époque où je recevais beaucoup de livres, j'en reçois moins parce que je fais moins ce genre de travail, mais où j'avais des coups de fil d'éditeurs, voire d'auteurs, qui m'appelaient au bout de 3-4 jours après que j'ai reçu le livre en me disant « Monsieur, vous n'aviez toujours rien écrit ».
Livres de 500 pages.
Et c'était des livres parfois de 500 pages, vous êtes gentil, Jeanne, parfois de 800 ou 1000 ou 1200 pages. C'est quelque chose d'abominable. Et quand vous en avez 20 sur votre bureau, vous ne savez déjà pas comment les gérer. Alors, 40 000 titres, c'est effectivement énorme. Et comme il me semble, quand on va chez certaines personnes qu'il n'y a quasiment plus de livres, l'équation est facile à poser.
Il y a livre et livre. Évidemment. Il y a livre et livre. En fait, il y a un phénomène aussi d'écriture, ce qui est une très bonne nouvelle. Si les gens se mettent à l'écriture, c'est aussi une forme de sas, un petit peu comme ça, de décompression, pouvoir écrire ce qui nous tient à cœur dans notre vie ou d'un sujet en particulier. Il faut savoir qu'on est passé à plus de 80 000 pendant le Covid. Donc il y avait cette volonté quand même d'externaliser un certain nombre de, soit de connaissances, soit d'émotions. Donc ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, l'auto-édition est devenue quelque chose d'absurde parce que c'est un leurre. La plupart des auteurs pensent que parce que leur livre est imprimé, il existe. Et malheureusement, c'est loin d'être le cas. Il faut quand même un label, il faut des réseaux, il faut le conseil d'un éditeur parce que c'est un métier d'être éditeur. Il faut savoir présenter un livre, il faut savoir le soutenir. Et voilà, donc c'est un mariage entre un bon auteur et puis un réseau. Mais la clé, c'est le réseau, évidemment.
Alors, nous allons en venir, si vous le voulez bien, au sujet précis de cette émission, à savoir Notre-Dame de Guadeloupe. J'ai intitulé l'émission, assez logiquement, somme toute, et sans beaucoup me creuser la tête, Notre-Dame de Guadeloupe face à l'histoire et à la science. Ça n'est pas original, mais je ne voyais pas ce qui aurait pu être tellement original. Beaucoup de découvertes ont été faites sur Notre-Dame de Guadeloupe. Je n'en ai pas fait personnellement, donc je n'avais pas de message particulier à transmettre. J'avais une première question. Pourquoi Notre-Dame de Guadeloupe ? Il y a déjà beaucoup de productions sur le sujet. Que pensiez-vous, j'allais dire, je le dis à l'imparfait exprès, que pensiez-vous au moment où vous avez décidé de faire ce livre, offrir de nouveau ou de particulier sur la question ?
Alors, on n'a rien pensé du tout. On a juste agi. On a été, ce livre, il a été commandé par le ciel. Tout simplement parce que... alors oui, il y a des livres sur Notre-Dame de Guadeloupe. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a peu de choses qui sont vraiment soutenues, en tout cas avec un vrai travail d'écriture, un vrai travail de recherche. Un livre, c'est une rencontre. C'est plusieurs rencontres. C'est une rencontre entre un auteur, ici en l'occurrence, comme c'est une bande dessinée, c'est un auteur et un illustrateur. Un éditeur qui va travailler sur la partition générale et puis le public. Donc un livre comme celui-là, en tout cas, il n'est pas de son auteur, de son éditeur, de son public. Il vient parce que naturellement, il s'impose à tout cet ensemble de personnes. Notre-Dame de Guadeloupe, c'est un personnage qu'on connaît très bien nous dans notre famille. Nous connaissions, mais sans, pas particulièrement sur ce sujet-là, l'auteur d'un livre qui est donc justement Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe face à la science et à l'histoire, qui est une des références vous devez connaître, vous l'avez, je crois, interviewé, Madame Smith, qui est David Caron et son épouse Gabriella. Qui sont des références sur ce, et qui a écrit un ouvrage vraiment qui fait loi, on va dire.
Je pense qu'on peut le dire. Il a été, alors je ne sais plus s'il a été écrit d'emblée en français, il me semble, mais sans être sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ce livre qui est il doit en être à sa deuxième édition complétée, augmentée, il fait référence parce qu'il s'en tient vraiment avec beaucoup de rigueur à ce que l'on sait vraiment du miracle de Notre-Dame de Guadeloupe, que beaucoup de Français ne connaissent pas. C'est vous qui allez nous dire tout cela. Mais en tout cas, en le lisant, j'ai été frappée. J'ai trouvé que ça n'est pas une thèse scientifique. C'est vraiment un livre pour présenter les choses au public, mais avec beaucoup de rigueur et sans tomber dans la recherche du fabuleux à tout prix. L'image suffit à elle seule. Son miracle est éclatant et à de multiples facettes, il présente ce qui est vraiment vérifié et il élimine ce qui ne l'est pas. Et j'ai trouvé que sur ce plan-là, le livre de David Caron est vraiment remarquable.
Oui, c'est vraiment un marqueur, en tout cas sur ce sujet. Il est également très bien critiqué par ceux qui sont des référents en la matière, mais sur le plan religieux, donc par exemple le père Pascal Nègre, le père Jean-Baptiste de l'Abbaye de la Grâce, qui sont des référents sur ce sujet. Donc, et moi j'avais lu ce livre, mais sans savoir que c'était David qui l'avait écrit. Donc voilà, il se trouve qu'on s'en est aperçu, donc on connaissait l'auteur. J'avais beaucoup apprécié ce livre, mais c'est un livre, comme vous l'avez dit, qui est très rigoureux, qui est très dense, qui est une étude scientifique, hein, qui va jusqu'au bout et qui démontre que la science aujourd'hui, factuellement, ce qu'elle révèle sur l'ensemble, parce que c'est un miracle à plusieurs facettes, la Tilma de Notre-Dame de Guadeloupe.
Je pense que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il faut rappeler très brièvement ce qu'est l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Nous sommes au Mexique en 1531. Cela fait un peu plus de 10 ans que Hernán Cortés et ses quelques centaines de conquistadors espagnols sont arrivés. Il y a eu des péripéties de conquête, de bataille. Des Indiens ont commencé à se convertir puisque des franciscains sont arrivés dans le but de les évangéliser. Mais tout stagne et arrive une rencontre absolument extraordinaire entre un Indien de 57 ans, je pense qu'il a à ce moment-là, 55, 57, il est veuf, il s'occupe de son vieil oncle, il est baptisé, il se rend très régulièrement à la ville, à ce qui est aujourd'hui Mexico, pour être catéchisé. Il va à la messe et un jour, il croise une ravissante jeune fille dans une lumière extraordinaire et elle lui parle avec une tendresse qui est qui est bouleversante. Mon petit Juan Diego, mon Juan Dieguito. Ça en espagnol, mais elle lui parle en nahuatl, elle lui parle dans sa langue d'origine.
Vous pouvez parler en espagnol et en nahuatl, Jeanne. Ça le passe. Le cochon n'interdit que l'anglais.
Il ne mouffera pas. mais en tout cas, elle lui demande d'aller voir l'évêque de Mexico qui s'appelle Juan Zumárraga. Et elle lui dit, je veux un sanctuaire ici. Et lui résiste, mais je suis tout petit, je ne vaux rien, etc. Bref, tout finit avec un miracle éclatant puisque la petite jeune fille, la dame de l'Apocalypse, peut-être qu'on y reviendra, c'est ainsi qu'elle se présente, lui dit d'aller cueillir des roses de Castille au Mexique. Ce n'est pas si banal que
en
ça.
En hiver,
en fait, il n'y en a pas. Et il arrive devant l'évêque, il met tout ça dans sa tilma, c'est-à-dire son manteau qui est fait en fibre végétale très ordinaire. Hein. Normalement, une tilma, si ça vous dure 10 ou 20 ans, c'est bien le bout du monde. Mais lui, il y tient beaucoup. C'était le dernier cadeau que lui avait fait sa femme avant de mourir. Donc il arrive avec sa tilma et il dit « Voilà, j'ai une preuve de ce que je demandais. » Il déploie sa tilma et là, l'évêque tombe à genoux. Et demande pardon et dit mais l'évêque n'a pas vu des fleurs, il a vu l'image d'une jeune vierge enceinte, il faut le préciser, sur la tilma. Juan Diego ne l'a même pas vue, lui il la tient devant lui. Il voit qu'une image de la vierge de Marie s'est imprimée sur la tilma. Alors bien sûr, à partir de là, il croit tout ce que lui dit Juan Diego. On dispose d'un message d'une beauté extraordinaire de la part de l'apparition de Marie qui rassure Juan Diego, qui lui dit mais comment peux-tu, n'oublie pas que je suis ta mère, tu es dans le creux de mon manteau, je m'occupe de toi, rien dans la maladie, dans tout, rien de mal ne peut t'arriver. Et donc, de là est née une dévotion extraordinaire. Il faut savoir que Juan Diego, à ce moment-là, est désigné par l'évêque pour être le gardien de la tilma. Il ne s'en séparera plus. Je trouve que c'est touchant aussi. Et à partir de ce moment-là, des conversions par millions des Indiens. Pourquoi ? Eh bien, ce miracle en est l'occasion, et une occasion qui est étudiée au cordeau par ceux qui sont là-haut. Cette image répond aux attentes des Indiens, elle emploie leur langage, elle répond aux attentes des Espagnols, elle emploie leur langage, elle montre que les deux sont faits pour se rencontrer et vivre en paix, et elle répond à nos questions à nous, au XXe, XXIe siècle, c'est au XXe qu'on a vraiment commencé à l'étudier à fond, elle répond par des éléments qui sont totalement inexplicable aujourd'hui par la science. Voilà le miracle de Notre-Dame de Guadalupe. Son sanctuaire se trouve à Mexico. Il est visité, je crois, par 25 millions de personnes par an. Gérald Valette opine du chef. C'est bien ça. C'est le lieu le plus extraordinaire de pèlerinage de toute l'Amérique, des Amériques. Et cette Sainte Vierge est appelée impératrice des Amériques. Donc c'est à elle que vous avez consacré cette bande dessinée. Je dirais que pour les Français qui connaissent certainement mieux le Saint-Suaire, le linceul de Turin, c'est un miracle qui est analogue, c'est-à-dire quelque chose qu'on pouvait vénérer, évidemment, d'emblée, et qui a eu d'énormes conséquences, mais aussi quelque chose que nous découvrons de manière toute particulière aujourd'hui.
Allez-y. Je voulais juste dire, analogue, il y a une petite chose en plus à Guadeloupe qu'au Suaire de Turin, c'est que la Vierge est en quelque sorte réellement présente sur la tilma au moment où l'évêque la découvre, puisque dans les miracles, j'allais dire, modernes, accessibles seulement à la science de notre époque, on voit le reflet des personnages qui assistent à cette scène. Alors que le Suaire de Turin, lui, j'allais dire, s'arrête avec la mort du Christ. Il n'y a pas de deuxième scénario Tandis que là, il y a un scénario qui est l'apparition à Juan Diego, et puis un scénario qui est l'apparition à l'évêque et aux gens qui l'entourent.
Alors, je ne voudrais pas me substituer à la connaissance et à l'exégèse de David et Gabriel Caron, mais pour attiser encore plus la curiosité des auditeurs, la Tilma, elle se déploie dans le temps de manière permanente et jusqu'à aujourd'hui même pour l'humanité. Parce que, d'abord, c'est le premier autoportrait de la Vierge. Et ça, c'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, la science n'a pas pu démontrer une origine humaine à cet objet qui est cette tilma, donc cette étoffe qui devrait être en poussière depuis plusieurs centaines d'années, d'une peinture dont on ne connaît pas l'origine, des pigments qui ne sont pas identifiables. Enfin bon, la suite de ces recherches et de ces constatations est énorme. Elle se déploie jusqu'à aujourd'hui parce que là où elle parlait instinctivement par le langage aux Indiens de l'époque, en utilisant le langage des fleurs qu'ils connaissaient très bien, en utilisant un certain nombre de symboles qui étaient présents sur la tilma, qui leur parlaient immédiatement et qui les rassuraient, comme vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui, parce que nous, on est une société beaucoup plus scientifique, on a besoin toujours d'expliquer tout pour y croire. Et ça, c'est notre culture de Saint Thomas qui veut ça. Eh bien, elle nous donne généreusement cette exigence-là aussi. C'est-à-dire qu'elle se révèle, elle se laisse étudier par toutes les corps scientifiques possibles. Je crois qu'il y en a plus de 11, et pour nous prouver qu'elle est bien présente encore maintenant sur cette étoffe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dépasse tout. J'espère que les auditeurs auront l'occasion d'aller puiser dans ce livre. Mais ce livre, qui est une référence et qui est une Bible, quand on a écouté David Caron qui fait des conférences dans la France entière et au-delà, parce qu'il est inépuisable et infatigable pour révéler à ses auditeurs, aux personnes qui viennent le voir en conférence, les secrets et cette histoire incroyable. C'est un livre qui reste très scientifique, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une appétence sur l'étude d'un certain nombre de thèses qui va assez loin. Et je m'étais aperçu que voilà, parfois, certaines personnes pouvaient ne pas forcément être séduites par le format du livre en lui-même, alors que ce miracle devait être à tout prix révélé, en tout cas déployé.
Il faut ajouter que les gens lisent moins. Ou n'est-ce pas dans votre optique ?
Les jeunes lisent moins ou lisent différemment. Le livre se porte bien, malgré tout ce qu'on a pu dire. Le livre se porte bien, d'une manière générale. Alors pas forcément. Alors on peut regarder la qualité, on peut regarder un certain nombre de critères, mais d'une manière générale, le livre se porte plutôt bien. Mais sur un sujet comme celui-là, il faut sortir de l'abstrait, il faut vraiment être dans quelque chose qui touche directement et facilement pour qu'ensuite on puisse aller plus loin si on a envie. Et donc le format de la BD historique, la bande dessinée historique, est vraiment un format universel parce qu'il donne le temps de pouvoir raconter l'histoire. Grâce aux images, on peut aller plus loin parce qu'on a, avec l'image, on a un appel à la fois au symbole, au paysage qui est derrière. Enfin, il y a dans une seule et même image, il y a plusieurs choses qui peuvent se dérouler, enfin, s'expliquer. Donc, ça permet d'aller au fond, finalement, quand même, d'un certain nombre de questions historiques. C'est le format privilégié pour raconter l'histoire aux jeunes, mais pas que, aussi aux moins jeunes. Ça imprime dans l'imaginaire des gens et dans l'esprit immédiatement ce qu'on veut faire passer comme message. Donc ça nous semblait être le format idéal. Et donc d'une discussion comme ça, assez informelle, est né ce projet de se dire bon, on va, il faudrait faire. On était dans le il faudrait, on n'était pas dans le on va faire. Parce qu'une BD, ça coûte très très cher. Et c'est beaucoup beaucoup de temps. Et il faut trouver un très 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 talentueux illustrateur. Ça ne se trouve pas sous les cailloux d'une rivière.
Et je voudrais ajouter, il sort aujourd'hui, on fabrique, je suis au courant d'un projet par exemple qui m'a l'air tout à fait intéressant, mais la personne qui s'en occupe n'a pas le temps, elle fait tout faire par l'IA. Eh bien franchement, c'est désastreux.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que l'IA ne peut pas retranscrire encore, hein, peut-être, mais en tout cas, sur ce format-là... la cohérence en fait de l'histoire, parce que elle peut faire une très belle, un très beau dessin, même si les critères du beau peuvent être totalement discutables. Mais en tout cas, elle aura du mal à permettre la cohérence de l'histoire sur plus de 1000 cases. C'est très, très compliqué pour l'IA, parce que c'est tout sauf une intelligence. En tout cas, ce n'est pas une forme d'intelligence qui permet d'aller dans ce format-là. Voilà, donc on était parti sur le projet. Il faudrait...
Aviez déjà l'idée de l'illustrateur ou...
Non, pas du tout. On avait juste David et Gabriella qui ont dit « Ok, nous, on va s'atteler au scénario, qui est un énorme travail. Donc ça, ils étaient partis déjà là-dessus. Et puis l'illustrateur est tombé un petit peu du... Enfin, il est tombé du ciel, oui, c'est François Rocher, qui nous a rejoint par l'intermédiaire d'une personne qui avait entendu parler qu'eux, voilà. Et qui a un talent incroyable, qui nous a fait une bande dessinée fabuleuse, qui a participé aussi au détail du scénario, à la mise en œuvre de tout ça, parce que visuellement, on peut vraiment donner quelque chose de très différent d'un talent à l'autre sur une case de BD. Et là, on a vu en tant qu'éditeur, parce qu'on n'est pas du tout dans la partie créa en tant qu'éditeur, hein, on est chef d'orchestre, on a vu se dérouler devant nous, page après page, un miracle. Un miracle. J'étais un peu comme l'évêque devant la Tilma. Ça se déployait comme ça, avec mon épouse, avec mes enfants. On regardait les planches arriver et c'était fabuleux. C'était absolument fabuleux jusqu'à cette couverture qui à elle seule, voilà, représente toute la BD. Donc c'était vraiment une très belle chose. Mais bon, il fallait financer tout ça aussi. Et donc non seulement François Rocher était venu avec ses talents et ses pinceaux. Et il se trouve qu'il travaille aussi pour une entreprise qui s'appelle Credo Funding. Et Marie, ne faisant jamais rien à moitié, elle avait tout prévu. Et donc, on a sollicité ceux qui faisaient partie du réseau de Credo Funding. On a soumis le projet en leur demandant de précommander la BD pour permettre de la financer. Et ce qui était incroyable, c'est que c'est arrivé sans aucun accroc, et on a pu financer la BD. Ce qui, pour nous, est une gageure, parce qu'une entreprise comme la nôtre, qui est microscopique, n'a aucun moyen, puisse faire une BD comme ça, ça tombe vraiment du ciel.
Alors, si je bien saisi, cette bande dessinée existe en deux langues pour l'instant.
Elle existe en français et en espagnol.
Et vous avez commencé par le français ou par l'espagnol ?
Non, on a commencé par le français, mais on avait tout de suite en ligne de mire une version multilingue, en commençant par l'espagnol, parce que d'abord on lui devait ça, hein, c'est quand même la langue par principe de cette bande dessinée. Parce qu'on voulait voir
le nahuatl, alors.
Ou le nahuatl, oui. Un peu moins lu. Et puis parce que voilà, on voulait aussi commencer à voir si le marché espagnol serait intéressé pour s'approprier cette œuvre. Donc on a d'abord édité une grande série, une très grosse série d'impressions en français. Puis on a été dévalisé. C'est arrivé. C'est pas par hasard. La BD est arrivée le 9 décembre sur sa palette, sur ses deux palettes chez nous. Je vous passe les combats, hein, qui accompagnent ce genre de projet, parce qu'il y en a un qui n'est pas forcément très content qu'on fasse l'apologie de Marie, qui a quand même écrasé sa tête, je vous rappelle. Mais bon, au terme de ces combats, on a quand même réussi à obtenir ces deux palettes le 9 décembre et 15 jours plus tard, on n'en avait plus.
Il faut rappeler que l'anniversaire de l'apparition, c'est le 12 décembre.
C'est le 12 décembre, oui. Donc ça a commencé le 9. C'est 9, 10, 11, c'est sur plusieurs jours.
Oui. Et ça a été un hasard que cela vous parle.
Totalement. Ah oui, oui. Ah, oui, on ne maîtrise pas. Une fois qu'on appuie sur le bouton d'impression, on ne sait pas quand elle arrive.
Oui.
Et c'est d'autant plus remarquable, si je puis dire, que en général, les gens se disent « Bon, Noël, c'est le 25. Si je commande trop tard, je n'aurai jamais les choses à temps. » Et donc, le 9, si vous commencez à les avoir, les gens ont déjà quasiment tous programmé, si je puis dire, les cadeaux qu'ils veulent faire et passer leurs commandes.
Oui, si vous me permettez une mauvaise blague, la Sainte Vierge, son grand miracle est peut-être qu'elle a cru à la poste française.
Ah, ça, c'est aussi une possibilité. Mais alors là,
en tout cas, ça s'est fait.
Un mystère total.
On a été dévalisé, ça s'est fait comme ça. Et c'était très, très bien. Bon, beaucoup de gens l'attendaient. Et puis, donc, on a réimprimé immédiatement une deuxième très grosse série. C'est là où on en a profité pour mettre la version espagnole. En plus petite quantité, mais pour...
Mais qui était prête, donc.
Qui était prête, oui.
Une question à ce sujet. On aurait tendance à croire que les hispanophones, alors peut-être moins en Espagne qu'en Amérique latine, mais on aurait pu croire qu'ils connaissent déjà cette histoire. Est-ce le cas?
Oui, ils la connaissent.
Est-ce qu'ils la connaissent bien?
Non, ils la connaissent, ils la révèrent, ils l'ont dans le sang. Donc, elle fait partie de l'univers de la maison, elle fait partie des protections, elle fait partie de la culture mexicaine, bien entendu, latino en général, d'ailleurs. Elle est après, dans le détail, elle est assez peu connue, parce que finalement, peut-être qu'il y a moins besoin, dans la culture mexicaine, de preuves. Ils ne sont pas assoiffés de preuves scientifiques pour croire aux apparitions. Pour eux, c'est une évidence.
Oui, puisque ça répond à ce qu'ils sont, en fait.
Alors peut-être moins maintenant, mais en tout cas, elle fait partie de l'univers très familier des familles mexicaines et des familles mexicaines qui sont aux États-Unis. Mais néanmoins... la connaissance ensuite de toutes ces études scientifiques des miracles et de toute la dimension incroyable de la Tilma, ça c'est forcément plus ténu, donc ça leur permet aussi d'apprendre beaucoup de choses.
Ouais. Alors je ne sais pas si c'est le moment de dire ça, mais bien sûr j'ai lu la BD avant cette émission et j'ai été vraiment très 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 impressionnée par la manière dont elle parle le lecteur. C'est extrêmement astucieux. Il y a un scénario dont on a envie de savoir la fin. Un scénario qui touche, puisqu'il s'agit d'un couple. Lui ne croit en rien. Sa femme, je crois, est mexicaine, catholique, et dévote de Notre-Dame de Guadalupe. Et l'histoire... Alors, je ne vais pas dévoiler tout ce qui se passe, mais en tout cas, c'est à travers les yeux d'un sceptique qu'on aborde l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Et vraiment, je trouve que le choix du scénario est remarquable.
Et on ne va pas tout révéler, effectivement, mais une des trames de cette bande dessinée, c'est aussi de découvrir la puissance incroyable de l'intercession de Marie dans, et c'est un sujet qui nous rapproche de l'actualité, dans la gardienne de la vie. Parce que Marie est celle qui protège la vie à naître et la vie à terminer. Et donc il y a aussi cette histoire-là qui est très prégnante dans la bande dessinée et qui lui fait honneur parce que c'est vraiment sa position de reine.
Alors, il me semble, Jeanne a dit que le scénario se déroulait à travers les yeux d'un sceptique et de sa femme qui, elle, est croyante et pratiquante. Il me semble qu'on indique à la fin, il y a un certain nombre de pages, c'est-à-dire appareil critique, de présentation, des prières, un peu d'historique. Il me semble qu'on indique que ce scénario n'est pas une pure invention, mais qu'elle correspond à une histoire vraie, même sans que les personnages soient exactement ceux qui sont nommés.
Oui, c'est inspiré, comme diraient les Américains, d'une histoire vraie.
Ouais, d'accord.
Absolument. Et qui est très proche des scénaristes, bien entendu, ce qui lui donne encore plus de poids dans sa crédibilité, parce qu'en fait, quand on la lit, elle coule de source, cette bande dessinée. Ouais.
Je voudrais vous rappeler que vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Pardon ? L'émission, qu'est-ce que j'ai dit ? La radio, l'émission, pardon. J'ai du mal à vieillir, moi. Et nous sommes avec Olivier Figueras qui dirige cette émission. Je suis avec lui, Jeanne Smith. Et nous recevons aujourd'hui Gérald Valette, qui est éditeur à la maison Les Trois Cœurs. Il vient d'éditer en début d'année, je crois que c'est début 2026, une bande dessinée sur Notre-Dame de Guadalupe. Et c'est spécifiquement cette bande dessinée qui fait le cœur de notre émission.
Ce qui prouve que tu n'as pas bien écouté ce que notre invité disait tout à l'heure, puisqu'il a reçu les bandes dessinées le 9 décembre. Ça ne peut pas être début 2026.
Ah oui, où est-ce que j'ai vu alors j'ai vu ça sur Internet, autant pour moi.
La deuxième édition.
Autant pour moi, je suis vraiment... Alors, donc entre décembre et janvier, vous avez fait deux éditions. Eh bien ça, c'est remarquable.
Alors, nous allons écouter le traditionnel également Bobino, marquer une petite pause et puis nous reprenons notre discussion.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Par avance, merci.
La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora. No hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Por miles sus hijos cayeron destrozados, eran los soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus pies. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron...
Voilà, il m'a semblé que mettre les Christeros, puisque finalement c'est un chant que les Christeros, même si je n'ai pas trouvé un enregistrement de l'époque, ben, je ne pense pas qu'ils aient eu, les pauvres, le temps de faire ce genre de choses. Et puis les matériels à l'époque devaient être très rudimentaires. Mais il m'a semblé que de mettre ce chant, donc, que les Christeros chantaient en hommage à la Vierge de Guadeloupe, était opportun en l'occurrence, puisqu'ils sont quand même très présents. Alors, pas forcément beaucoup dans la bande dessinée, mais c'est quand même dans l'histoire du Mexique et de Guadeloupe un épisode important, un épisode de... d'union, malgré le fait que ce soit une guerre, de réunion du Mexique avec la Vierge. Alors, nous évoquions le scénario de cette bande dessinée. Quand vous avez l'air de dire que vous l'avez reçu, j'allais dire, image par image ou planche par planche, c'est assez logique, mais vous n'en aviez pas d'idée avant que ça arrive. Ils avaient carte blanche, si je puis dire, pour...
Oui, alors naturellement, ils ont carte blanche. Oui, ça, c'est l'apanage même de notre édition, même si après on valide ou on ne valide pas. Mmh. Mais l'idée, c'est vraiment enfin, on avait toute confiance. Cela dit, quand vous avez le scénario, alors on connaissait le scénario, mais l'illustration du scénario donne toute la couleur. D'ailleurs, c'est marrant parce que le scénario, il arrive d'abord en état brut, de mots. Donc on le lit, on comprend. Après, on a les dialogues qui arrivent. Puis ensuite, on a les premières planches, ce qu'on appelle les crayonnés. Donc c'est quelque chose d'assez brut, où on se rend compte de ce qui va se passer dans les cases. Donc vraiment, cette genèse qui se met en place, parce que c'est là où on peut valider ou pas, en disant, bah non, finalement, il faudrait plutôt changer ça ici, il faudrait plutôt mettre ça en exergue là, voilà. Et une fois que les crayonnés sont validés, on passe au dessin, au crayon, mais de manière quasiment définitif. Et puis ensuite, c'est là où la magie arrive, on passe à la couleur. Mmh. La couleur donne tout. Et d'habitude, dans une vraie, enfin, une BD plus institutionnelle, on va dire, vous avez un scénariste, vous avez un, voire deux illustrateurs, et vous avez un coloriste.
Mmh. Oui, c'était la question que je me posais.
Ce sont des métiers différents. Mmh. Et là, on... Comme je vous l'ai dit, on avait dans la somme de nous trois entités, tout était réuni, puisque François Rocher a fait également la partie couleur, avec un talent voilà, équivalent à son dessin. Donc tout ça, ça a permis aussi d'être un peu plus rapide d'ailleurs, que peut-être si on était passé par d'autres...
Et si je me souviens bien, nous avions un peu discuté de votre BD au téléphone. Tout est vérifié, c'est-à-dire qu'il y a une grande exactitude historique des dessins, ouais. Et puis de l'aspect religieux aussi, vous l'avez fait vérifier.
Oui, alors on a affaire à deux scientifiques au niveau scénariste, donc je peux dire que c'était rigoureux. Et malgré cette rigueur, c'est eux-mêmes qui ont demandé à ce que le scénario, enfin l'ensemble de l'œuvre avant d'être publié soit vérifié. C'est là où on a contacté deux personnalités de référence, qui sont le père Pascal Nègre et le père Jean-Baptiste, Jean-Baptiste de la Grâce. Et c'était très drôle parce qu'au départ, je me rappelle du père Jean-Baptiste quand je lui ai envoyé la... Enfin, quand je l'ai contacté, il était un petit peu réticent, un peu froid comme ça au téléphone. J'étais un peu échaudé. Et ensuite, je lui ai envoyé quand même...
Être échaudé par le froid, c'est merveilleux.
C'est vrai. Merci de le relever. Et donc, on lui envoie le PDF de l'œuvre. Et là, il nous rappelle et il s'excuse. J'ai peut-être dû vous paraître un peu froid, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on nous propose de vérifier quelque chose sur le RAN ou Guadeloupe, c'est souvent une grande catastrophe. Et là, il m'a dit, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il y avait juste une erreur, la couleur d'une chasuble à une époque, justement au Mexique, au tout départ. Ouais, donc, on était vraiment. Ils ont scruté la BD dans tous les sens. Il y a eu deux, trois correctifs, mais extrêmement mineurs et nécessaires. On n'allait pas s'arrêter aux détails. Enfin, on est allé jusqu'au bout des détails. Et donc, on était très serein sur la BD. Il faut savoir que c'est une BD qui est en trois parties. Il y a une partie sur. Le contexte historique, parce qu'on ne peut pas comprendre la Tilma si on ne comprend pas le contexte historique dans lequel elle vient. Il y a ensuite... et on apprend des choses incroyables. Moi, je ne connaissais pas la moitié de cette histoire-là. En tout cas, je la connaissais mal. Et on a ensuite la recherche scientifique et puis on a le message qui est délivré, qui est un message incroyable.
Olivier, je crois que toi, vous aviez été spécialement touché par la partie historique de la BD, où c'est plus la première apparition de la Tilma, parce que sur le plan historique, il y a toute cette épopée espagnole, mais qui n'est pas seulement espagnole, c'est intéressant de noter.
Oui, et moi, j'ai été plus touché par l'apparition au sein du peuple mexicain, parce qu'elle répond exactement à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils attendent à ce moment-là, et que chaque élément de l'apparition est une réponse à leurs interrogations, à leur désespoir d'une certaine façon,
et à leurs croyances.
Oui. C'est pour moi, c'est quelque chose de... Bon, je ne suis pas scientifique et j'allais dire que j'ai un peu de répugnance à la question scientifique. C'est quelque chose qui me gêne. Mais je veux dire que qu'on arrive à trouver des choses par l'intermédiaire aujourd'hui de moyens scientifiques, c'est extraordinaire. Mais ça me paraît beaucoup moins extraordinaire parce que après tout, les moyens scientifiques, je suis sûr que si, je ne sais pas moi, dans 500 ans à nouveau, on aura inventé je ne sais quelle chose qu'on n'est même pas capable d'imaginer aujourd'hui, et on trouvera peut-être encore des choses. Voilà. Mais moi, c'est l'immédiateté de la réponse à une civilisation. Ça me touche, ça me frappe beaucoup plus parce que eux l'attendent. Alors que nous, finalement, on a déjà cette réponse, et ce qui nous vient est en plus. Donc, ça ne me touche pas de la même façon. Ça ne me touche que secondairement, comme une seconde preuve qu'on ajoute, et si celle-ci vous a pas suffi, ben on a encore celle-ci. Alors, vous disiez tout à l'heure, Gérald Valette, que nous étions dans une époque où nous avions besoin de voir des choses comme cela. Je suis peut-être un électron libre ou quelqu'un qui s'est trompé d'époque, c'est possible.
Non, mais on le voit en fait dans les témoignages qui nous parviennent des lecteurs et des familles d'électeurs ou des enfants d'électeurs, et on s'aperçoit de la force de ce message qui est pas connu pour la plupart. Elle est assez peu connue. Elle est déjà pas très connue en fait finalement parmi ceux qui l'a pris. En tout cas pas dans son détail. Et là je vous rejoins. Et on n'a pas besoin de science pour croire. Notre époque est un peu différente de celle il y a 500 ans. Les populations qui ont reçu ce message ont cru par l'image. Ils ont cru par l'image que cette tilma qui leur a été donnée avait tout le codex qui leur permettait de faire ce trait d'union entre leur ancienne, le temps des temps anciens qui étaient les leurs, avec leurs sacrifices et les dieux, et la venue de la venue du Christ, puisque c'était son message. Elle avait en elle le sauveur. Et on est un peu pareil, on se retrouve. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une similitude énorme à 500 ans d'écart entre cette civilisation qui se convertit à. En masse, hein, je vous rappelle, 9 ou 8 millions de convertis en quelques temps très très rapides. Et puis notre civilisation, qui elle aussi est en perte de repères, qui est entre deux, qui est dans un passage. Et à sa manière, elle y répond. Alors elle y répond par la science, parce qu'aujourd'hui la science est toute puissance. Donc elle y répond en disant, bah oui, mais allez-y, elle n'a pas peur du tout d'être scrutée dans tous les sens, puisqu'à chaque fois qu'on la scrute, on tombe de haut, on est devant nos limites très scientifiques, et on se dit, bah oui, c'est un miracle, c'est juste un miracle.
Et d'ailleurs, la BD le montre très bien, enfin, tout est exposé de manière aussi plaisante que didactique, j'ai envie de dire. Mais par exemple, un Indien de 1531 qui voit cette image, que voit-il ? Il voit une Vierge. C'est bien montré dans le livre. Pourquoi ? Parce que ses cheveux sont détachés. Il voit une femme enceinte parce qu'elle a une ceinture noire autour de la taille. Donc pour lui, c'est extraordinaire. Il voit qu'elle cache le soleil. Elle est plus puissante que ce soleil auquel on sacrifie des dizaines de milliers de pauvres gens. Donc ça le frappe aussi. Et puis ensuite, il y a tout un langage des fleurs sur sa tunique qui lui parle aussi. Je crois que le symbole de la fleur à quatre pétales, dont le nom m'échappe, pardon, mais désigne la divinité, et elle est sur son ventre. Alors, on arrive au 21e siècle, et des scientifiques, là aussi, c'est raconté avec beaucoup de saveur. On voit que des scientifiques, donc des astronomes, ont étudié la position des étoiles sur le manteau de la Vierge. Manteau turquoise, qui est quand même la couleur portée uniquement par les empereurs aztèques. Donc, personne d'autre n'avait droit à cette couleur-là. Les étoiles, on peut se dire, tiens, elles sont posées un peu au hasard. Mais non, si on les étudie vraiment à fond, on s'aperçoit qu'elles correspondent, leur position correspond à la position des étoiles dans le ciel au moment de l'apparition. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ventre de Marie ? Eh bien, il y a la constellation du lion.
Léon.
Et pile à l'endroit où se trouve son enfant, l'étoile Régulus, qui veut dire petit roi. Mais enfin, là, on tombe à genoux, quoi.
Oui, et donc il y a à la fois le Régulus pour nous,
oui,
et la fleur,
et la
dont
fleur
j'ai oublié aussi le nom, parce que je ne suis pas spécialiste de fleurs mexicaines, vous me pardonnerez. C'est la même chose en deux temps, effectivement.
Et c'est la Vierge de l'Apocalypse.
Oui.
C'est la Vierge de l'Apocalypse,
oui, drapée
de soleil. Elle est sur la lune. Toute la définition est là. Et c'est là où le métier d'éditeur devient intéressant. Parce qu'on s'aperçoit, voilà, à travers ce portage de ce message dans une version finalement très proche, qui est le dessin. Hein, un peu comme elle s'est dessinée, là on a dessiné son histoire, on a cette idée. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est les 500 ans, ces fameuses périodes un peu charnières, 2030 qui est devant nous, qui représentera les 500 ans. 2031, c'est les 500e anniversaire. On a l'impression d'être dans cette fin des temps représentée par la Vierge qui vient nous dire, ben voilà, je porte le Sauveur. Et c'est par moi que ça viendra. Et ça, ce message qui a tendance à être étouffé ou à pas être connu, ou moins connu en Europe, eh bien, c'est son moment, c'est son heure, finalement.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, il faut quand même que je le dise, j'ai lu pas mal de livres sur Guadeloupe, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Et dans la BD, j'ai fait des découvertes. Il y a là des éléments, notamment sur les étoiles. Je laisse aux auditeurs de Radio Courtoisie le plaisir de découvrir des éléments très, très étonnants de cette disposition des étoiles, mais vous en trouverez beaucoup d'autres. Même si vous connaissez bien l'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe, vous allez être enchantés et puis vous allez avoir envie de diffuser ça, de cela autour de vous. Je crois que ça, c'est une expérience que vous avez faite en tant qu'éditeur.
Ah oui, totalement. Non, mais on est dépassés. On est servant. On est vraiment servant.
Moi, ce qui m'a le plus fasciné dans l'histoire des étoiles, c'est, je pense, la chose que je n'avais jamais vraiment notée, c'est la vision des étoiles, mais pas par nous. Enfin, vue du ciel. C'est ça qui est. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et il y a beaucoup de détails de ce genre qui sont rapportés. Et celui-ci est intéressant parce qu'effectivement, ça répond à la question, mais est-ce que ça ne serait pas une peinture faite par... Non, ce n'est pas dans ce sens-là que c'est vu. Donc, c'est peut-être une peinture, mais elle est faite de l'autre côté. Quoi. Bon, effectivement, c'est un peu particulier.
C'est
quelque chose qu'il faut digérer.
Multidimensionnel, absolument. Ouais.
Et donc, vous rencontrez, vous avez dit que les demandes affluent. Est-ce qu'il y a une soif particulière de ce genre de choses, diriez-vous, aujourd'hui ?
Il y a un besoin. Il y a un besoin évident. Il y a un besoin de croire. Il y a un besoin de connaître. Parce qu'elle est connue, entre guillemets, mais de très, très loin. Et là, on a l'occasion, finalement, de percer le mystère de manière simple. On n'a pas besoin de rentrer dans des choses compliquées pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut quand même savoir que rien que l'année dernière, en décembre, lors des apparitions, l'anniversaire des apparitions, pendant les 3 jours des apparitions à Tepeyac au Mexique, pendant ces 3 seuls jours, il y a eu 13 millions de pèlerins. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Nous, c'est difficile pour nous de se rendre compte de ça. Comment est-ce que vous mettez 13 millions de pèlerins en 3 jours dans un même lieu ? C'est pas moi qui l'invente, c'est la presse locale qui le relaie. Donc en fait, on a affaire, vous disiez 25 millions de pèlerins à l'année, ça c'est le flux traditionnel, c'est entre 6 et 8 fois lourde. Donc on est sur une dimension qui nous dépasse, à tel point qu'il y a même un autre site qui a été créé par le cardinal Burke au nord des États-Unis, dans le Wisconsin, à La Crosse, pour permettre justement aux pèlerins qui ne peuvent pas aller jusqu'au Mexique d'aller recevoir les mêmes grâces dans cet endroit-là. Donc on est sur quelque chose qui est au-delà de la foi, qui est sociétal à ce niveau-là. Et je pense que les gens ont besoin de savoir que ça existe, tout simplement. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est une...
Alors, vous venez d'évoquer Lourdes, juste en mode comparaison. Moi, il y a une question qui me trotte dans la tête et à laquelle je ne sais pas s'il y a une réponse. En tout cas, moi, je n'en connais pas. On a Lourdes, fin du 19e. On a Fatima, peu après, début du 20e. Et puis, tout d'un coup, on nous rebalance, si je puis dire, Guadeloupe. J'avais envie de dire un peu familièrement à quoi joue la Vierge.
Elle joue en équipe.
Oui, ça c'est sûr. Mais elle vient à un endroit, elle vient à un autre, et puis elle nous rebalance une vieille histoire, si je puis dire, en la réactualisant. À tel moment il y a Lourdes, à tel moment on parle plus de Fatima, là on reparle plus de Guadeloupe. Je ne sais pas comment le service de communication fonctionne là-haut. Et surtout, je ne sais pas ce que le service de communication céleste essaye de montrer ou de prouver en passant comme ça du détail. Et puis je ne cite que ces trois-là parce que c'est les plus connus peut-être ou les plus fréquentés.
Chaque lieu d'apparition mariale est juste fantastique à lui-même. Il se suffit à convertir d'ailleurs énormément de gens, mais on s'aperçoit qu'il y a peut-être un autre besoin auquel Guadeloupe répond plus. Je ne sais pas, hein, là je m'avance sans filer. J'ai envie de dire, c'est pas la même ampleur. On a quand même devant nous une création qui n'est pas humaine. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas prouver l'inverse. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ça fait 200 ans qu'on essaye avec tous les moyens du bord possible de prouver qu'elle est humaine, que c'est une création, que c'est une pure imposture. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, on n'y arrive pas. D'un imprimé, on ne sait pas d'ailleurs comment, d'un imprimé qui est là depuis 500 ans sur un tissu qui aurait dû être dégradé au bout de 10 ans.
Qui aurait dû subir un après d'ailleurs.
Parce que on ne sait même pas comment c'est possible sur un tissu aussi grossier d'y imprimer quelque chose d'aussi fin. Enfin, ce n'est qu'une série d'interrogations, c'est un énorme point d'interrogation. Mais cette Tilma, elle est là devant nous. C'est effectivement, vous parliez du Saint-Suaire, c'est un peu l'équivalent du Saint-Suaire, mais je crois avec une déflagration plus importante, parce que c'est notre mère. C'est celle qui porte, c'est celle qui nous apporte. Et peut-être que c'est son temps, c'est-à-dire qu'il y a eu des temps différents. Hein. C'est comme dans tout déroulement d'un scénario, vous avez des étapes. Et puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'elle était là il y a 500 ans avec un message qui a fait son effet, qui a eu quand même des répercussions énormes dans le monde nord-amérique et donc qui vient jusqu'à chez nous. Et puis là, elle est peut-être en train de dire... ma mission, elle ne se termine pas il y a 500 ans, elle va se terminer maintenant. En tout cas, le message va se porter maintenant.
Mais je pense qu'il y a quand même peut-être aussi un parallèle à faire. Fatima, Lourdes sont des messages de pénitence, essentiellement. Fatima encore plus que Lourdes. Et à tel point qu'à Fatima, il y a très peu de guérisons. Il y a des conversions, mais relativement peu de guérisons. Notre-Dame de Guadeloupe arrive dans une terre habitée par une religion qu'il faut bien qualifier de démoniaque, puisqu'elle vit du sacrifice humain. Elle est d'une cruauté extraordinaire. Les gens ont le sens de la... de la transcendance. Et d'ailleurs, ils sont dans l'attente de quelque chose qui va les libérer. Les libérer de leur indignité du ciel dont ils sont très conscients. Ça, c'est une autre histoire mais qui serait intéressant de raconter, mais ce n'est pas le moment. Ils attendent quelque chose, ils attendent un médiateur pour le ciel. C'est extraordinaire de le penser, ça, explicitement dans leur culture. Et ils la reçoivent et ils se convertissent en masse. Et d'ailleurs, non seulement ils se convertissent, ils changent de vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque de désespérance très large. Et nous ne sommes pas dans une époque de foi, nous sommes dans une époque d'absence quasi généralisée de foi, en tout cas dans nos pays occidentaux. Je veux bien croire que dans d'autres pays, il n'en va pas ainsi, et notamment en Amérique latine, où la foi reste quand même très très vive. Mais enfin, par chez nous, la moyenne des gens ne sait pas pourquoi elle est là. Et le message de Guadeloupe a ceci de particulier, que c'est le message rassurant d'une mère pour ses enfants. Et alors là, ça ouvre aussi des perspectives. Elle dit, je suis là, un. Deux, je prouve que je suis là. Essayez donc de prouver que je ne suis pas là. Trois, je suis votre mère, quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur, tout va très bien. Donc même s'il y a telle ou telle tribulation, telle ou telle souffrance dans une famille, et Dieu sait si elle a accentué le rôle de la famille, qui lui est totalement battue en brèche à notre époque, eh bien, elle dit, la famille, je suis là, je bénis la famille, je la protège. Il peut vous arriver des horreurs, évidemment, ça peut arriver à n'importe qui, mais n'ayez pas peur, je vous aide sous mon manteau. Et ça, c'est vraiment très frappant pour moi.
Et David, tout de suite, nous reprendrait s'il était là, il nous dirait, son message central, c'est « je suis la mère », quand elle s'adresse à Juan Diego, qui est un local à un moment donné, dans un temps, un lieu, elle lui dit « je suis la mère de tous les hommes ». Ça, c'est un message qui résonne. Je suis la mère. Elle est au Mexique, elle est à un endroit où même à l'époque, les Européens ne connaissent même pas cette terre, et elle leur dit « je suis la mère de tous les hommes ». Et donc, il y a vraiment quelque chose de très profond. En tout cas, en tant qu'éditeur, nous, on est simplement des relais. Hein. On n'a pas, enfin, je veux dire, toute la gloire revient aux auteurs et à l'illustrateur. Sans qui voilà, on n'aurait pas de sujet aujourd'hui. Et on est très, très heureux de pouvoir le faire. Alors, on constate, on est là un peu comme des spectateurs. On voit cette société qui essaye de se rassurer, je pense, avec cet ouvrage. Et au-delà de ça, qui cultive la foi et qui la transmet. Parce que c'est une BD, l'avantage, à la différence d'un livre, c'est qu'on la garde. Une bande dessinée, elle reste dans une bibliothèque familiale ou dans une bibliothèque. Quand on l'offre à un enfant, il s'en souviendra toujours parce qu'on est souvent plus visuel qu'autre chose dans notre mémoire.
Et qu'aujourd'hui, l'enseignement est d'ailleurs essentiellement visuel. Maintenant, il faut quand même dire que le texte est bien écrit. Il y a plus que l'image. Et je crois que c'est Reynald Secher qui fait des BD sur l'histoire, et notamment de la Vendée, de la France. Il dit qu'une BD est lu, je ne sais plus combien, 12 fois ?
Je crois que c'est 11.
11. Mais bon. C'est-à-dire une BD qui arrive dans une famille, c'est 11 lecteurs. Donc ça, c'est les gens de passage, ça se lit vite, on est invité chez quelqu'un, on voit la BD, on la lit avant de s'endormir. Enfin bref, c'est les enfants se la passent. C'est vraiment quand c'est un démultiplicateur de messages, finalement.
Oui, alors, on pourrait évidemment... continuer sur Notre-Dame de Guadeloupe pendant fort longtemps.
Peut-être faut-il
mesure,
donner les coordonnées.
À la mesure, oui, justement.
Oui. Alors les coordonnées, c'est très simple. C'est édition. Alors c'est non, le site web, c'est www.3coeur, 3 en chiffres, coeur, c'est tout attaché. .fr.
Voilà. Et le là, O et le E, pas non, de non, E dans l'eau, non, ça n'existe pas dans le langage.
Non, vous ne tomberiez nulle part. Non. 3coeur.fr, c'est très simple. Et là, vous avez l'ensemble du catalogue et bien entendu en priorité Notre-Dame de Guadeloupe qui fait partie des grosses demandes. Voilà.
Quels sont les autres ouvrages
Alors, on a bien entendu Sir Clark Crockett. Là, c'est un ouvrage de référence que l'on vient de réimprimer. Nous avons une petite collection que nous commençons avec deux titres. Alors ça, c'est des bonbons, ce que j'appelle. C'est-à-dire que ça se lit en une soirée ou deux. C'est des petits formats qui sont époustouflants parce que ce sont des témoignages de gens comme vous et moi, mais qui ont fait l'expérience du Christ dans leur vie de manière extrêmement profonde. Donc, c'est des sujets qui nous touchent, qui nous voilà. Donc, il y a deux titres qui sont présents dans cette collection. Nous avons également des jeux, parce que c'est très compliqué de faire des jeux sur le thème catholique, dont un jeu qui est un jeu de référence qui marche extrêmement bien, qui s'appelle Biblit. C'est un Time's Up catho, comme le dit la presse, c'est-à-dire un jeu où on peut se retrouver en famille à plusieurs, même très nombreux, avec ou sans connaissance, puisqu'on peut, on peut faire appel à plein d'autres moyens pour faire deviner le mot qui est sur la carte. Et ça marche très très bien. C'est ce qu'on appelle le jeu le plus drôle sur le sujet. Hein, de loin, il y a de grands moments. Il y a un autre jeu qui nous est venu par un prêtre, l'abbé Spriette. Qui rencontre des jeunes couples, qui prépare les jeunes couples au mariage ou qui rencontre des jeunes couples, qui fait partie du milieu étudiant, qui est vraiment très, très à l'écoute de nos jeunes et qui constate, comme tout le monde, que voilà, les jeunes se consomment plus que ne se connaissent. Et donc, il a eu l'idée de répertorier plus de 300 questions dans un petit jeu, qui sont des questions, comme il le dit, le cœur se situant au-dessus de la ceinture, il n'y a pas de questions en dessous. C'est un jeu très sympa qui permet en fait aux jeunes de se connaître et d'aborder les sujets qu'on n'aborde pas forcément au départ et qui sont pourtant essentiels dans la connaissance de l'autre avant de savoir si on va s'engager. Donc il y a ce jeu-là, il y a tout un catalogue. Et puis il y a une super petite collection qui va être réimprimée, qui date des années 1900, qu'on a retrouvée, qui s'appelle Ma petite collection familiale. Il y a 12 titres, qui sont des titres un petit peu anciens, connotés des années 1900, mais qui sont essentiels. Qu'est-ce qu'une bonne confession? C'est quoi le devoir d'un catholique? Ce genre de sujet. Tout petit bouquin, 24-48 pages en tout petit format. Ce sont des perles que, bien entendu, on ne retrouve plus, plus personne ne veut éditer ça. On ne les retrouve pas en librairie, on les retrouve uniquement dans les abbayes ou dans les monastères, parce que c'est les seuls qui ont le courage d'afficher une vraie ligne éditoriale catholique. Les autres librairies ont même du mal à l'afficher, tellement c'est pour eux trop extrême de parler du purgatoire, de parler de l'enfer, de parler d'une confession. Vous voyez, c'est des sujets qui aujourd'hui, même dans notre Église, divisent. Donc, bah, nous, on a décidé de les faire ressortir. Donc, c'est une petite collection qui marche très bien. Voilà, donc du pur sucre.
Et des projets aussi ou vous n'en
des
parlez
plein de
pas
projets, oui, plein de projets. Un livre qui va sortir là, fin de l'été, sur les miracles au quotidien et comment est-ce qu'on peut, au quotidien, se nourrir de ce que le ciel nous a donné, les prières, les neuvaines, l'eau bénite, enfin plein de choses que les gens ont oublié d'utiliser dans leur quotidien pour aller un peu mieux, pour aller un peu plus loin, pour soutenir leurs épreuves. Donc ça, c'est un vrai, c'est très revigorant parce que c'est une sorte de livre de cuisine comme on a dans nos vieilles cuisines. Ben là, vous avez tout dans un recueil qui reprend tout ça. Et puis, si tout va bien, une adaptation de la BD sur un autre continent. Mais ça, je n'en dis pas plus tout de suite.
Voilà. C'est autre chose.
Il faut bien traverser les continents de temps en temps.
Ouais, absolument.
Surtout pour des messages universels.
Oui, absolument. Et puis, on rencontre plein d'auteurs et puis on a plein de sollicitations et on regarde au fur et à mesure ce qui est faisable et comment on peut le faire.
Alors, je rappelle votre site internet, c'est www.3coeurs, tout attaché. Et sans E dans l'eau, vraiment toutes les lettres, .fr.
Et le 3 en chiffres.
Et le 3
en chiffres, pas en lettres.
En chiffres.
Ah, j'ai
coeurs.
Mal compris. Oh, ah, c'est oui. Moins. 3 cœurs. Oui, ah bah, je
vais
rechercher moi-même.
Chose que tu n'as pas
compris. Ah, misère. Je me suis dit, c'est bizarre, je pensais que c'était un chiffre, mais donc c'est moi
mais
qui
sinon, vous pouvez la demander. Enfin, les auditeurs peuvent demander la BD auprès de leur libraire, ils la commandent et ils l'ont.
Il y a pas et y a-t-il des librairies qui vendent
Oui, on a la Procure, on est dans toutes les grandes librairies qui ont un rayon religieux.
Religieux. Ouais.
Alors, nous marquons une toute petite pause. Et nous reprenons pour la fin de cette émission. Voilà, nous venons d'écouter un peu de Nahuatl, puisque vous ne voulez pas faire une édition Nahuatl, il fallait bien en mettre un petit peu là. Et donc, c'était l'Ave Maria, ou au moins son début en Nahuatl.
De Frank Larocca, qui est un musicien à l'Institut Benoît XVI pour les arts sacrés, fondé par Salvatore Cordileone. Évêque de son état et non pas mafieux, comme son nom aurait pu le laisser penser, et qui est passionné par les arts sacrés et qui veut les faire revivre en ce sens d'une production nouvelles, mais qui soient toujours aussi belles que toutes
oui,
celles qui
nous
ont précédées.
Oui, ça n'est pas non plus une version telle qu'on pouvait la chanter il y a 500 ans.
Voilà.
C'est une musique d'aujourd'hui, mais l'esprit de Nahuatl de l'époque.
Gérald Valette, vous nous avez dit que votre maison d'édition, Trois Cœurs, alors c'est bien 3 en chiffres, cœur.fr, est une entité qui ne fait pas de bénéfices. Elle est tout ce que vous gagnez est réinvesti dans ce qu'on peut appeler un apostolat. Mais vous faites autre chose et qui n'est pas sans lien avec ce propos. Vous avez ravivé quelque chose que l'on connaît peu en France depuis environ 1850, mais qui avant cette date était répandu. C'est le principe du carré de mariage. Donc vous avez un site. Petite France, où vous présentez ce linge qui était jadis, alors c'est un linge qui a du corps, qui est offert aux mariés traditionnellement, aux jeunes mariés, pour leur rappeler leur histoire familiale. Ça ressemble à un bouti, c'est un bouti.
Oui, la technique est celle du bouti, qui était très répandue à l'époque. C'est comme ça que l'on décorait et que l'on magnifiait les tissus. C'est une histoire de patrimoine et de transmission familiale. Donc c'est pour ça que c'est au cœur de notre philosophie. C'est une deuxième activité qui n'est. Voilà, on écrit sur du tissu comme on écrit sur du papier. On peut même dire qu'on écrit l'histoire familiale sur ce tissu comme on écrirait une icône, c'est-à-dire qu'on y met vraiment tout ce qui est le cœur. Alors, ça faisait partie du trousseau de la mariée. Donc là, on est à une époque, effectivement, que les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître. Le trousseau de la mariée, c'était cette logique que lorsque une jeune fille était demandée en mariage et qu'elle prononçait ses vœux de fiançailles, on avait un an à peu près pour préparer les épousailles. Et à l'époque, la jeune femme allait prendre en charge la maison familiale de sa future maison. On ne peut pas faire fonctionner une maison sans linge. On peut faire fonctionner sans assiette, sans table, sans chaise, mais pas sans linge. Voilà. Donc, c'était le moment où l'ensemble de la famille, les marraines, les tantes, les mères, les grands-mères, confectionnaient dans la joie, parce que c'était un beau moment, ce moment de l'annonce du futur mariage. On confectionnait les linges. Et donc, on achetait des tissus et on les brodait. On les brodait aux initiales des futurs époux. Quand il y avait matière à y déposer des symboles familiaux comme les armoiries pour certains ou pour les moins socialement positionnés, ça pouvait être la maison familiale, ça pouvait être le village. Et puis, on y déposait un certain nombre de symboles qui représentaient le pain, qui représentaient la fécondité, la joie, l'amour, qui allait être déposé sur cette pièce de tissu qui fait 1,50 m sur 1,50 m et qui était brodée à la main pendant plus d'une année par l'ensemble de la famille pour être donnée aux époux. Donc, ça allait dans l'univers de l'intimité de la chambre. C'est une pièce patrimoniale parce qu'elle se transmet de femme en femme, de mère en fille, au sein de la famille.
Et évidemment, quand on l'a brodée et qu'on l'a confectionnée, on était ensemble, forcément, parce qu'on travaillait sur le même tissu.
Bien sûr. Oui, on racontait l'histoire. Donc, forcément, c'était l'éveillé, c'était tout cet univers-là. Alors, c'est né dans le bassin méditerranéen. Hein, c'est effectivement l'univers du bouti. Donc, on est dans le sud de la France. Et puis, ça monte. Et puis, ça se répand dans toute la France. On a encore des réminiscences de trousseaux dans d'autres régions de la France. Il n'y a pas si longtemps que ça. Marie-Antoinette avait sa courte pointe de mariage. Pour les puristes, parce que je sais que vous avez des auditeurs extrêmement attentifs à ce que l'on raconte, le terme exact de cette pièce, c'est la vanne de mariage. Mais la vanne de mariage, elle est peu connue, parce qu'il en reste très peu, et même dans l'histoire, on a plus ou moins oublié de l'écrire, ou à part vraiment certains puristes qui ont réussi à retrouver des choses. On ne sait même pas comment l'écrire, s'il y a un N ou deux N. C'est pour vous dire à quel point on est dans la transmission orale de la tradition. Mais cette pièce, elle est essentielle, elle est au cœur du mariage, elle est au cœur de la signification du mariage. On ne pouvait pas se marier sans trousseau, c'était pas possible. Ça s'appelait la dot. C'était ce qu'on allait apporter, en fait, pour que les époux puissent commencer leur vie. Donc, elle est vraiment essentielle. Et là aussi, dans un monde et d'une industrie, celle du mariage, qui est gigantesque, hein, dans le monde entier, on parle d'un des premiers marchés. Vous avez le marché du mariage, vous avez le tourisme en premier. Après, vous avez le mariage et le bébé. Hein, c'est trois très énormes marchés, oui, mondiaux. Dans ce marché-là, qui tourne à vide depuis 30 ans, parce que c'est normal, une fois qu'on a fait le tour, la plus grande révolution de ce marché-là, c'est la liste de mariage, qui a d'ailleurs fait disparaître ce genre de produit. Et bien là, on le réintroduit, on en reparle. Alors, on est au tout début de l'histoire. On commence notre réintroduction sur le marché. On a beaucoup travaillé en amont. Et donc, on est en train de la faire connaître, parce que le plus grand challenge maintenant, c'est de la faire connaître.
Alors, je dirais, pour aller dans votre sens, que pas plus tard que ce midi, j'utilisais une serviette brodée aux initiales de mes arrière-arrière-grands-parents, du côté de ma mère. Enfin, certains, puisque après mère, après c'était père. Enfin bon, ça oscille un peu, mais... Il se trouve que j'ai hérité de quelques serviettes comme ça. Bon, bah, rien d'autre aussi, quelques draps aussi.
Aussi, des serviettes, des nappes, on a un certain nombre de choses. Mais alors, ce qui est peut-être très drôle, c'est que ça m'a fait...
Sur quatre générations, c'est assez
c'est très important.
Étonnant, émouvant même, de se dire, tiens, j'ai de gens que je ne connais que par leur prénom et leur nom, quoi.
Oui, bien sûr.
Mais quelque chose... C'est drôle, parce qu'il y a un lien quand même avec la tilma de Juan Diego, c'est que cette serviette, qui a donc plus de 150 ans, en la sortant, je me suis dit, elle est pleine de trous, qu'est-ce qui arrive ? Et là, Olivier regarde les initiales et dit, mais... oui, mais ce n'est pas à ma grand-mère, ça. Et en vérifiant, eh bien, on a vu que ce tissu avait 150 ans.
Alors, c'est un tissu qui tient quand même, mais pas forcément
200
ans. Oui, le bouti,
c'est autre chose. Là, on parle d'un
Et c'est quand même la seule pièce avec, aujourd'hui, en tout cas dans le mariage. Alors, et le mariage, il est multiforme. Hein, on ne se marie pas pareil aux États-Unis, au Mexique, en France ou ailleurs. Mais cet engagement, quand il est pris au sérieux et que c'est un lien social, c'est une affaire très importante. Cette pièce, ce carré de mariage, c'est la seule chose qui va, avec les photos du mariage et la vidéo, survivre à la vaisselle. C'est la seule chose qui va se transmettre vraiment sur le temps long. Et ce temps long, il est essentiel. Dans un temps qui n'est plus long aujourd'hui, plus rien n'est long. L'achat d'une maison n'est pas long. Le patrimoine est quelque chose d'extrêmement volatile. Et ben, ces pièces-là, parce qu'elles contiennent l'histoire de la famille, l'histoire de la grand-mère ou de la maman qui a voulu exactement ce type de symbole sur sa pièce, c'est une histoire que l'on chérit, que l'on se transmet. Il y a toujours dans une famille une fille qui porte la tradition familiale. Et c'est pour elle.
Et votre clientèle dans ce domaine arrive à retrouver des éléments comme ça familiaux suffisants pour que vous puissiez...
Non, pas tous, bien sûr. Non. Mais on peut l'écrire. On peut l'écrire. Alors, c'est à la fois... C'est ça qui est extraordinaire. C'est très bien ce que vous venez de dire là. C'est à la fois une pièce qui est à destination des mariés, des futurs jeunes époux, mais eux, effectivement, ils n'ont pas forcément, puisqu'ils commencent leur vie, c'est difficile de mettre des symboles, de voir. C'est plutôt les parents qui vont transmettre cette génération-là, leurs symboles familiaux. Mais c'est surtout pour les anniversaires de mariage, les 20 ans, les 30 ans, parce que là, on a déjà son histoire. On n'a pas eu l'occasion d'offrir cette pièce à sa femme lorsqu'on s'est marié, puisque ça n'existait pas. Mais là, on a l'occasion de pouvoir écrire cette histoire générationnelle et donc de la transmettre avec d'autant plus de force aux générations d'après. Et c'est aussi un cadeau d'anniversaire de mariage.
Oui. Et d'ailleurs, votre site montre des vannes donc de mariage ou des carrés de mariage qui répondent à un modèle. Ce sont des variantes qui peuvent en gros convenir à chaque nouvelle épousée.
Un cadeau de mariage.
Cadeau de mariage. Donc ça, c'est je dirais que c'est le standard. Mais vous proposez aussi un service d'invention, d'écriture, comme vous l'avez dit, selon les désirs de la mariée et de sa famille.
Voilà, là, on écrit vraiment sur mesure. On va créer le carré de toute pièce en échangeant avec ceux qui sont en face de nous pour l'écrire. On va leur proposer, comme on le ferait avec un BAT, en fait, on va leur proposer une histoire racontée comme ils le souhaitent et puis on va leur donner. Donc ça, c'est très important.
Où est-ce qu'on trouve ça sur Internet ?
petite-france.fr.
Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Le temps est toujours trop court dans ces émissions. Je ne sais pas comment ça se fait. Depuis le temps que j'en fais, je devrais être habitué. Je ne le suis pas.
Je vous remercie, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis une fois de plus. Merci beaucoup, Jeanne, de m'accompagner comme si souvent, même si les dernières fois vous vous êtes absenté. Merci, Gérald Valette, de nous avoir fait l'honneur de cette première visite à Radio Courtoisie, en espérant que ce ne sera pas la dernière. Merci à Claudia qui a réalisé cette émission. Donc, je vous rappelle cette bande dessinée sur Notre-Dame de Guadeloupe.
Je crois qu'il faut la remercier aussi, elle.
Je suis bien incapable de la remercier. Moi, je sais pas à mon niveau, mais vous pouvez la remercier, Jeanne. Vous êtes plus douée que moi pour ça. Et je vous rappelle, dans le même cadre que Notre-Dame de Guadeloupe, le jumelage que Reynald Secher organise dans 4 semaines à peine, puisque ce sera le 26 septembre à la chapelle Basse-Mer, entre le Mexique des Cristeros et la Vendée.
La ville où a été martyrisé José Luis Sanchez.
Et la Vendée des Chouans et des Vendéens, dans cette chapelle Basse-Mer où il a construit ce mémorial. Voilà, nous avons été rappelés à l'ordre et nous nous arrêtons.
Merci.
Vous venez d'entendre Lumière de l'espérance dirigée par Olivier Figueras, assisté de Jeanne Smith, émission préenregistrée le 9 juillet 2026, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 30 août, de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.